Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, la plus caustique des émissions d'histoire. Que j'ai l'honneur de co-présenter avec le plus caustique, certainement, des animateurs radio. Pour ceux qui en douteraient, je vous rappelle sa réaction hier lorsqu'il a voulu lancer le disque de Feu Chatterton et qu'il a réalisé que ce n'était pas le nom de la chanson suivi du nom du groupe, mais le nom du groupe tout court.
Feu, c'était Chatterton sur Europe 1, avec Monde Nouveau.
Non Stéphane, le nom du groupe c'est Feu Chatterton.
Bah oui, mais bon, ils trouvent tous des noms débiles.
Vous êtes vraiment impayable, Stéphane, d'ailleurs je ne sais pas comment on peut vous payer. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu Noël, le montage est odieux, comme vous Mathieu. Oui, bonjour à tous, aujourd'hui, une émission spéciale qui vous est dédiée. Pour les méchantes langues, les gens caustiques, plus que d'habitude, nous allons consacrer cette émission à trois grands satiristes.
Vous êtes caustique.
Oui. Oui, nous sommes caustiques, pas autant qu'eux. On réunit des as de la pique cet après-midi, à commencer par celui qui a fait claquer les portes et moquer ses contemporains dans des pièces de théâtre déjantées qui sont passées à la postérité. Je vous raconte Georges Feydeau, le roi du vaudeville. Puis, lui, c'est à la cour qu'il a montré son talent de plume, une plume drôle, acerbe et piquante, ce qui lui sera quand même très douloureusement reproché. C'est le destin peu commun du courtisan et écrivain Roger de Bussy-Rabutin. Mais les as de pique ne sont pas tous décédés. Heureusement, Mathieu.
Dieu soit loué, Stéphane, il y en a encore de bien vivants. À commencer par Ricky Gervais, un acteur britannique qui n'a pas vraiment sa langue dans sa poche. En tout cas, lorsqu'il a présenté les Golden Globes l'année dernière, c'est tout Hollywood qui avait été rhabillé pour l'hiver et même le suivant. Je vous brosserai son portrait à 99% vrai. Eux aussi, Stéphane, sont souvent caustiques, parfois même, disons-le, insolents. Hein, mais on les aime, nos chroniqueurs, et plus on avance dans la saison, je vais vous dire, plus ils s'aiment aussi entre eux, j'ai l'impression. En tout cas, au moment d'annoncer leur thème de chronique, ils se soutiennent les uns les autres, genre c'est génial. La semaine dernière, c'était presque, je vous le dis, un peu too much.
Je me suis apporté un petit truc comme ça,
ouais.
Que vous voyez, c'est un boulet de la bataille d'Austerlitz.
Non ! Bon, n'en faites pas trop non plus, certes, vos chroniques sont intéressantes, mais quand même.
Oui, elles nous entraînent dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ouais, bonjour. Bonjour, espèce de langue de vipère, tout autant que vous êtes dans ce studio. Eh bien, moi, je fais front et je réagis comment, bien sûr, en vous parlant d'amour. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous la plus belle chanson d'amour de tous les temps. C'est du
My
moins ce qu'on écrivait.
My heart will go on.
Non, pas du tout.
Near,
non.
Wherever.
Non. Ah, c'est pas mal, bien essayé, mais non, c'est Lily Marlène, voyez.
Oh, der Kaserne, von
dem Da werden wir uns wiedersehen bei der Kaserne, werden wir stehen. Voilà, donc ça, tout le monde sait que ça a été chanté.
C'est Marlène Dietrich
oui,
qui chante.
Oui, bon, bah, moi aussi, bien sûr. Hein.
Mais j'ai l'impression d'être dans Hibernatus. On est dans quelle époque, là?
Non,
on
mais écoutez,
ça a servi pendant les deux guerres.
Ah, c'est l'histoire, cher monsieur. Oui, c'est la chanson mythique de la dernière guerre qui était interprétée par Marlène Dietrich. Mais en fait, avant elle, c'est une certaine Leil Andersen, chanteuse de cabaret à Munich et à Berlin qu'il avait chanté et je vais vous raconter l'histoire de cette chanson.
Avec nous également David Castello-Lopez qui remonte aux origines.
Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est les origines, non pas des kiosques à journaux, je vais en parler un petit peu, mais d'un certain type de kiosques à journaux qu'on trouve à Paris principalement et qui sont les kiosques K80. Est-ce que vous voyez ces kiosques qui sont en plexiglas avec des armatures en fer et des boules je vois
ils
qu'on fronce des sourcils.
Ils sont en train de disparaître.
Exactement.
On les détruit. Alors, il y a beaucoup de gens qui, avec le hashtag Saccage Paris...
Que ça rend triste, je suis de ceux-là parce que c'est les kiosques de mon enfance.
C'est vous, Stéphane, qui êtes derrière ce hashtag Saccage Paris?
Moi, vous avez... Je me mouille pas. Paris, moi, je fais le patrimoine du reste de la France. Paris, je m'en occupe pas trop.
Très bien, vous laissez ça aux autres. Olivier Pouls est avec nous également, notre enquêteur gastronomique. Olivier, de quel plat vous nous racontez l'histoire aujourd'hui?
Ah oui, bonjour les amis, je vous emmène dans le nord de l'Italie et si nous faisions ensemble un petit osso buco, ça vous tente?
Ah bah oui, volontiers.
Comment ça, pas du tout?
J'adore la sauce de l'osso buco.
Bah, il paraît qu'il faut être une peau de vache aujourd'hui. J'essaie de m'y employer, voyez, ça ça ne m'est pas du tout spontané.
Ah oui, on y a cru. Enfin, un jour peut-être, Stéphane démasquera quel membre de l'équipe se cache derrière les questions du quiz.
L'ordure.
En attendant, il lui faudra s'y coller. Une fois de plus, Burn to be Alive, le seul quiz plus douloureux qu'un paintball naturiste, ça sera vers 5h-10. En attendant, rions un peu avec le portrait de notre première as de la pique du jour. On n'a pas le droit d'aller au théâtre, mais Stéphane est pote avec Macron, donc il peut nous faire entrer quand même. Il nous raconte Georges Feydeau.
C'est 9h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Feydeau, ce sont entre autres ses répliques. Le mariage, c'est l'art pour deux personnes de vivre ensemble aussi heureuses qu'elles auraient vécu chacune de leur côté. Ou encore, ma seule gymnastique, c'est d'aller aux enterrements de mes amis qui faisaient de la gymnastique pour rester en bonne santé. Vous l'avez dit, Mathieu, Georges Feydeau est considéré comme le plus grand vaudevilliste de tous les temps. Un auteur qui compte, parmi ses succès, La Dame de chez Maxim's, On purge bébé ou encore La puce à l'oreille, un homme dont l'inspiration première émane de ce qui l'entoure, a commencé par sa famille. Georges est né à Paris en 1862. Ses parents sont à leur façon acteurs, malgré eux, d'un vaudeville. Sa mère est considérée comme une élégante, une mondaine qui aurait eu des aventures avec notamment Napoléon III. Des rumeurs disent même que l'empereur serait le géniteur du petit Georges. Son père officiel, Ernest Feydeau, est un écrivain reconnu, mais aussi, malheureusement, le mari moqué car cocu. Georges traînera toute sa vie cette infidélité maternelle et en usera encore et toujours dans ses nombreuses pièces. C'est d'ailleurs à 10 ans qu'il écrit son premier vaudeville. Le thème, un seigneur médiéval, parti guerroyer en temps de croisade, rentre plus tôt que prévu et découvre sa femme avec le page qui devait la protéger. Feydeau trouve alors une chute osée pour son jeune âge, mais bigrement cocasse. Le mari trompé s'exclame « Eh bien maintenant, nous allons nous aimer tous les trois ». Si le petit Georges a l'esprit fertile, il ne brille pas dans son parcours scolaire. Feydeau décide d'abandonner ses études et n'obtiendra jamais son baccalauréat. Il veut se consacrer au théâtre. À son retour du service militaire, Georges ne veut pas dépendre de sa famille et trouve un poste dans un journal où il s'occupe aussi bien des pronostics hippiques que des potins théâtraux. Mais il ne peut s'empêcher de faire de l'humour. Un jour, n'ayant pas eu le temps ni l'envie d'étudier les chevaux qui doivent prendre part à une course, il tente de noyer le poisson. L'abondance des matières nous oblige à reporter à demain nos pronostics sur la réunion d'aujourd'hui. L'impertinent journaliste est renvoyé. Parfait. Il peut désormais se consacrer exclusivement à sa carrière d'auteur. Feydeau assiste à de nombreuses premières au théâtre et côtoie donc tout le gratin parisien. Gens de la culture, critiques de théâtre, acteurs, politiciens. C'est un formidable spectacle qui s'offre à lui et qui va l'inspirer. En 1886, à 24 ans, il se lance dans le grand bain et présente pour la première fois Tailleur pour dames. Feydeau est extrêmement inquiet. Comment le public va-t-il recevoir cette pièce? Trois actes peuvent s'avérer très longs si la sauce ne prend pas. Et pourtant, la magie opère. Dès le premier acte, les spectateurs sont hilares. Le rythme est enlevé. Le second acte enfonce le clou. « Faites comme si je n'étais pas là !» s'écriait Aubin qui venait de surprendre le docteur Moulineau au pied de son épouse, lui enlaçant la taille. Les critiques sont unanimes. C'est un succès. Au total, la pièce est jouée 79 fois. Malheureusement, après Tailleur pour dames, Feydeau enchaîne les échecs. Il retrouve cependant le sourire en épousant Marie-Anne, la fille de son maître de peinture. Elle est attirée par lui car il a la réputation d'un coureur de jupons. Il va s'en inspirer pour le personnage de Viviane dans Un fil à la patte. Viviane explique à sa mère qu'elle veut épouser un homme qui n'est pas un bon parti. Un mari comme ça, c'est flatteur, ça devient comme une espèce de légion d'honneur et l'on est doublement fier de l'obtenir, d'abord pour la distinction dont on est l'objet et puis parce que ça fait rager les autres. Feydeau savoure son bonheur. Marié, père de deux enfants, il triomphe de nouveau avec Monsieur Chasse. Il est considéré dès lors comme le maître du vaudeville car il ne laisse rien au hasard. Il devient un mathématicien du rire. Tout est calculé, les entrées sur scène, les sorties, les silences, les sourires. Sa technique de mise en scène est comparée à une horlogerie. Lui se voit davantage comme un chef cuisinier. J'introduis dans ma pilule un gramme d'imbroglio, un gramme de libertinage, un gramme d'observation, je malaxe du mieux qu'il m'est possible ces éléments et je prévois presque à coup sûr l'effet qu'ils produiront.
Pendant 24 ans, Fedo vole de succès en succès. Champignol, malgré lui, est joué 472 fois. La pièce brocarde la vie de la caserne et les militaires eux-mêmes viennent assister à la représentation. Dans le système Ribadier, Georges se moque frontalement d'une mode, le magnétisme. Sa pièce, Un fil à la patte, reçoit tous les honneurs. L'hôtel du libre-échange révolutionne le genre. La scène est divisée en trois. À droite, une grande chambre à cinq lits. À gauche, une petite chambre à un lit. Au milieu, le palier du premier étage de l'hôtel. Au deuxième acte, 9 acteurs se déplacent en même temps. Les portes s'ouvrent, se ferment, les personnages se croisent, s'évitent, se rencontrent, redoublent d'ingéniosité pour inventer des excuses. Pourtant, se moquer de ses contemporains n'est pas sans risque. Et Georges Feydeau ne va pas tarder à essuyer de violentes critiques. Comme on dit, qui s'y frotte, s'y pique, et Feydeau n'hésite pas à taquiner tous ceux qui l'entourent. Dans « Mais ne te promène donc pas toute nue », il prend exemple sur sa vie privée. Son épouse a pour habitude d'apparaître devant les visiteurs ou des domestiques dans une simple robe de flanelle, ce qui est très mal vu. Pour sa pièce, il choisit un mari au métier prestigieux, un homme politique dont la tenue légère de sa femme peut mettre sa carrière en péril. Son personnage est donc un député très honorable. Feydeau peut ainsi se moquer à demi-mot de parlementaires comme Georges Clémenceau ou Paul Deschanel. Et c'est vrai que certains critiques de théâtre lui reprochent ses attaques à peine dissimulées. Mais Feydeau s'en moque, il n'épargne personne. Dans sa célèbre pièce « La dame de chez Maxim's », il caricature les cocottes de l'époque, mais aussi leurs généreux amants. Quand la môme crevette séduit le duc de Valmonté, on devine que Georges Feydeau s'est inspiré du duc d'Uzès qui était tombé amoureux d'une demi-mondaine. La mère du duc écrira même à Georges pour lui demander de couper un passage de la pièce. Il faut dire que Feydeau présente son fils comme un simple d'esprit dont la propre maman dit de lui, alors qu'il tombe amoureux d'une cocotte, il ne sait rien, alors n'est-ce pas, il va faire de la littérature. Cette facilité à écrire des tirades acides, Feydeau la doit notamment à sa vie mondaine. Il fréquente de nombreux salons, bars, restaurants. Chez Maxim's, par exemple, se retrouvent le tout Paris, le prince Henri d'Orléans, le comte de Montesquieu, le prince de Sagan. La vie grouillante parisienne le stimule. Il laisse s'exprimer son bon mot et son humour corrosif. Un jour, on déplore que tel garçon ait trop souvent, dans les jupes de sa mère, une certaine baronne a priori sérieuse. Georges Feydeau s'en amuse. Bah, il s'y fera des relations. Malheureusement pour lui, la fin de vie de Georges Feydeau relève davantage de la tragédie que de la comédie. On lui diagnostique une méningo-encéphalite syphilitique. Bref, la syphilis. Il est alors amené dans un sanatorium à Rueil-Malmaison, où après avoir subi différents traitements, il s'éteint à l'âge de 58 ans. Fin de la représentation.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Georges Feydeau, nous sommes avec celui qui lui consacre un livre, Christophe Barbier. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Bonjour Christophe Barbier. Vous venez de publier Le Monde selon Feydeau, sous-titré Porte qui claque, Marie Cocu, quiproquo et fou rire aux éditions Talendier. On connaît le journaliste, l'éditorialiste politique d'un côté. On a découvert plus récemment le passionné de théâtre que vous êtes. Feydeau est un peu le lien entre tout ça. Est-ce qu'en tant qu'éditorialiste politique, Feydeau et ses piques vous ont servi de modèle?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a d'abord le sens de la répartie, le sens de la réplique, le sens du bon mot. Ça, c'est très précieux en politique. Et puis, il y a aussi chez Feydeau une manière de comprendre son époque, de voir les mouvements. Alors, il voit surgir déjà les prémices du féminisme. Feydeau est quelqu'un qui est très attaché au progrès technique. Il adore s'occuper des dernières inventions. Et puis Feydeau, même s'il avait aucun sens politique, il aimait bien mettre des politiques dans ses pièces. Par exemple, « Mais ne te promène donc pas toute nue », et ben ça nous parle de Clémenceau tout au long de la pièce.
Mmh. Depuis quand Feydeau vous accompagne comme ça? Vous l'avez beaucoup vu, beaucoup lu. Quelles pièces vous sont irrésistibles, pour reprendre un mot que vous leur appliquez?
Ben, j'ai découvert Feydeau avec une petite pièce oubliée qui était inédite quand moi j'ai eu l'occasion de la jouer, qui s'appelle « L'homme de paille ». Là encore, c'est de la politique. C'est deux hommes qui ont rendez-vous pour devenir le mari d'une femme politique, comme on est au 19e siècle, elle ne peut pas faire de la politique sous son nom, elle cherche un mari un peu postiche. Et ils se rencontrent l'un l'autre et ils prennent chacun l'autre pour la femme, comme si elle s'était déguisée. C'est la première pièce de Feydeau que j'ai jouée, vous voyez, c'était une pièce politique. Après, j'ai découvert les grandes machines, hein. Un fil à la patte, l'hôtel du libre-échange, le dindon, la puce à l'oreille, ça c'est irrésistible. Et puis j'ai eu la chance d'en jouer plusieurs. J'ai joué par exemple le dindon. J'ai joué aussi une pièce méconnue de Feydeau qui s'appelle L'âge d'or, où il fait voyager son héros dans le temps. On retourne chez Louis XV, mais on va aussi en l'an 2000. Et savez-vous qu'en l'an 2000, d'après Feydeau, les voitures roulaient à 2000 km/h et, en plus, les femmes avaient pris le pouvoir.
Mmh. Ah, on est pas si loin.
Non mais, vous parlez de machines, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de mécanique, une immédiateté chez Feydeau que vous décrivez en ces termes. Telle est sa marque de fabrique. Le spectateur ne rit pas, c'est le rire qui s'empare de lui, le tord et l'emporte. C'est avant tout ça, Feydeau, c'est une machine à rire. Le spectateur est la victime, au fond, de ce phénomène.
Oui, c'est une machine, mais c'est une machine très fine. On est plus proche de l'horlogerie suisse que du marteau pilon. C'est une mécanique qui vous entraîne dans ses rouages, qui doivent être bien réglés, ça c'est tout le défi de la mise en scène, et vous ne pouvez pas y résister. C'est-à-dire que vous pensez qu'un événement va se produire, par exemple l'entrée du mari ou l'entrée du commissaire, mais à peine avez-vous commencé à penser que ça va se produire, que ça s'est déjà produit. Et donc vous riez de votre propre surprise à être surpris. Et ça, c'est inégalé. Il n'y a que Feydeau qui a réussi à régler les rouages du vaudeville avec cette précision-là.
Christophe Barbier, vous avez cette expression, j'ai pas envie de vous jeter des fleurs comme ça, mais c'est très beau, vous dites « Avec Feydeau, l'art dramatique devient une branche de la mécanique de précision, une horlogerie de la bonne humeur. » Ça, je trouve que ça résume bien Feydeau, c'est-à-dire que c'est implacable.
C'est implacable, et il faut voir comment il travaillait. Hein. C'était plutôt un paresseux, Feydeau, et donc il s'enfermait dans des chambres d'hôtel pour s'obliger à travailler, et là, il jouait tous les rôles. C'est-à-dire que dans sa chambre d'hôtel, avec le camarade qui l'aidait à écrire, il voulait à tout prix vérifier que ça marchait. Et donc il jouait tous les rôles, et il enlevait tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui pouvait ralentir l'intrigue.
Alors, évidemment, Feydeau incarne à lui seul l'art de la pique, le côté satiriste. Ce talent, à quoi il tient finalement ? À sa maîtrise de la langue, mais surtout à sa façon de disséquer les mœurs de son temps ? C'est quoi le plus important en fait chez Feydeau ?
C'est le deuxième point. Feydeau est d'abord un formidable observateur. Il passait toutes ses soirées dans les cabarets et les restaurants de son choix, notamment chez Maxime, les terrasses des boulevards, il finissait la nuit à Montmartre, mais il ne buvait pas une goutte d'alcool et il parlait très peu. Il écoutait, il observait. Et c'est là qu'il notait non seulement des bons mots éventuels, mais surtout les types sociologiques dont il allait faire des personnages. Le diplomate en goguette, le militaire issu d'une famille aristocratique, le jeune gandin qui a fait fortune dans un coup de bourse, la cocotte bien sûr, l'épouse qui est partie à la recherche de son mari qui n'était pas rentré. Il voyait tous ces types et après il en faisait des personnages de théâtre.
Et c'est pour ça, vous dites, qu'il avait le génie de l'époque. C'est l'auteur le plus en phase avec ses contemporains. Vous en faites même un sociologue en faisant de lui l'Émile Durkheim du vaudeville. Qu'est-ce qu'il a observé mieux que d'autres ?
Il a vu l'aspiration d'un Paris de la belle époque d'entrer dans le XXe siècle en faisant sauter les bouchons de champagne. La guerre était loin derrière nous et loin devant nous. Tout allait bien, la tour Eiffel brillait de mille feux, les expositions universelles se succédaient et le monde entier venait faire la fête à Paris. Il fallait un auteur pour cette fête et il a décidé d'être cet auteur. Et il a réussi à canaliser cette aspiration à la joie des Parisiens, des bourgeois, en leur offrant des vaudevilles, c'est-à-dire des spectacles où ils viennent rire d'eux-mêmes, parce que sur scène, ce sont d'autres bourgeois qui s'enferrent dans l'adultère, mais en riant d'eux-mêmes, ils oublient leur existence. Et cette évasion-là, Feydeau l'a incarnée et a réussi à la porter jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Et c'est pas un hasard, en effet, s'il est le contemporain de Durkheim d'un côté, et d'Henri Bergson, le philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le rire », pour réfléchir au phénomène qui provoque chez l'être humain ce phénomène bizarre qui s'appelle le rire.
Mais justement, il est obligé, il est sociologue, mais il force le trait. Le vaudeville, c'est ça, c'est de aller presque jusqu'à la caricature.
Exactement, faut aller jusqu'à la caricature. Faut savoir quel trait on va grossir. Par exemple, l'avarice d'un bourgeois, souvent la vanité de celui qui accède à un rang social. Parfois aussi, la caricature du désir de l'homme qui ne peut pas s'empêcher de cumuler les conquêtes. Il pousse le trait jusqu'à la caricature, mais attention, sans jamais tomber dans la méchanceté. Il aime ses personnages. Il va laisser à d'autres, il va laisser à Alfred Jarry, il va laisser à d'autres auteurs, la volonté de faire mal, la volonté d'aller mettre dans la plaie de la société la plume du théâtre. Feydeau ne veut pas aller jusque-là. Il veut que tout reste plaisir. Alors s'il égratigne les gens, c'est plus pour les chatouiller que pour les faire saigner.
Christophe Barbier, vous faites aussi de Feydeau un psychologue qui, je vous cite, sait deviner et décrire notamment les aspirations et les attentes nouvelles de la femme. Dans quelle mesure il avait compris la psychologie féminine ? C'était un féministe ? Feydeau, est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, c'est un auteur féministe. Il faut tordre le cou à l'idée d'un Feydeau misogyne. Au contraire, Feydeau a compris que le XXe siècle serait aussi le siècle de la femme. D'ailleurs, ça se voit dans ses pièces. La femme trompée. Alors, elle veut se venger. Donc déjà, on n'est plus dans la femme soumise. Elle ne veut pas laisser son mari impuni quand elle a été trompée. En revanche, elle veut se venger en préservant son honneur à elle. Donc elle ne va jamais coucher avec un amant. Elle va faire semblant. Elle va montrer son intelligence. Elle va monter toute une mise en scène dans une chambre d'hôtel avec un monsieur en caleçon. Mais il ne se sera rien passé. Sauf que le mari, lui, il croit qu'elle s'est vengée. Donc il est humilié. Il a lui-même été surpris en galant de compagnie. Et sa femme s'est vengée. Et c'est à l'acte 3 que le poteau rose est découvert. La femme avait fait un simulacre, tout le monde se réconcilie, l'ordre bourgeois retombe sur ses pattes, mais le mari a compris que désormais fallait se tenir à carreau, le pouvoir de la femme a augmenté. C'est bien un auteur féministe.
Alors vous, Christophe Barbier, vous en faites un dramaturge, un sociologue, un psychologue, mais vous ne vous arrêtez pas là, vous en faites un philosophe, une sorte d'anti-Nietzsche. Pourquoi ? Parce qu'il est, il est l'humain trop humain pour reprendre l'un des titres de son œuvre ?
Oui, tout à fait. Il n'a pas cherché le surhomme nietzschéen, il a chercher l'homme de tous les jours. Il a voulu tendre à ses contemporains un miroir légèrement déformant, mais quand même affectueux. C'est un humaniste, Feydeau. Il croit finalement dans la bonté de l'homme, même si sa propre vie privée lui a apporté des déboires. Il s'est aperçu que sa mère avait été la maîtresse de Napoléon III, que lui-même était peut-être le fils de Napoléon III ou du duc de Morny. Il s'est aperçu que sa femme, qu'il trompait lui bien sûr, mais le trompait aussi depuis longtemps, avait une aventure durable. Il s'est enlisé dans un divorce qui était pénible. Donc sa vie n'a pas été un grand éclat de rire. Mais malgré tout, il gardait une sorte de tendresse pour le genre humain. Et moi, j'aime beaucoup l'une des dernières apparitions publiques de Georges Feydeau. C'est d'avoir été le témoin de mariage de Sacha Guitry et d'Yvonne Printemps. Comme s'il passait le témoin à Guitry pour continuer à nous faire rire avec l'amour, avec le désir, avec le conjugal, mais en ayant toujours soin de l'être humain. Nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas grand-chose, mais nous avons cette capacité d'être amoureux, et ça, c'est beaucoup.
Un mot sur le genre du vaudeville, qui, comme genre théâtral, n'a pas toujours bonne presse. Il y a quand même une distinction qui s'opère toujours, presque magique, entre le vaudeville et Feydeau. C'est-à-dire que Feydeau, moi, c'est du vaudeville, mais il y a un côté classe, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut dire que Feydeau donne ses lettres de noblesse au vaudeville ?
Tout à fait. Feydeau prend le vaudeville là où la biche l'a laissé. La biche faisait des vaudevilles assez acrimonieux. Feydeau va en faire des machines à rire, c'est-à-dire des choses uniquement lumineuses, des grands lustres scintillants. Et après Feydeau, on va aller vers le boulevard, donc du rire plus facile. Feydeau, c'est le moment aristocratique du vaudeville, avec deux conditions pour ça. D'abord, l'esthétique, et c'est vrai que la mode de la Belle Époque est fabuleuse, les robes sont sublimes, les bijoux, même l'architecture, les mobiliers, tout cela, c'est un goût excellent. Et puis la deuxième condition, c'est la beauté de la langue. Il y a chez Feydeau un amour de la langue française et il résiste le plus possible aux calembours faciles pour aller vers le jeu de mots, vers le mot d'esprit.
Un dernier mot, Christophe Barbier. Feydeau, on l'a évoqué, a capté mieux que personne son époque. Mais qu'est-ce qu'il a à dire à notre époque, à notre société d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est... Vous l'avez dit, ces pièces sont souvent jouées, donc... J'imagine qu'elles ne sont pas tant datées que cela.
Non, si elles continuent à être jouées, parce qu'il a su, et c'est ce qui en fait d'ailleurs le descendant de Molière, trouver les invariants de la nature humaine. Et donc il ne nous parle pas des défauts de 1900 ou de 1910, mais des défauts éternels des humains. L'avarice, le désir, la cupidité, la jalousie, ce sont des moteurs de l'humanité depuis la préhistoire. Et c'est en cela qu'il nous parle. C'est qu'aujourd'hui encore, même au temps des réseaux sociaux, de l'amour libre, on est quand même tous sensibles. On est susceptible, on peut réagir avec jalousie, on peut avoir des désirs, de la passion, et ça c'est éternel. Et l'illustration qu'il nous en donne, en fait, elle dépasse la peinture de son époque pour aller vers une peinture de la nature humaine. Alors c'est peut-être moins noble que Molière, mais Feydeau en est l'héritier direct.
Merci beaucoup Christophe Barbier. En attendant de pouvoir voir ou revoir les pièces irrésistibles de Feydeau, je renvoie nos auditeurs à votre livre qui vient de paraître, « Le monde selon Feydeau ». Porte qui claque, Marie Cocu, quiproquo et fou rire, c'est publié chez Talendier. Merci d'avoir été avec nous, Christophe Barbier.
Merci.
Merci.
Merci à
beaucoup.
Vous, Stéphane. Et n'oubliez pas un jour de jouer du Feydeau. Je pense que vous pourriez être un très bon acteur de Feydeau. Par exemple, dans Hortense a dit je m'en fous, ou tiens, pourquoi pas jouer dans Un fil à la patte, Bousin.
J'adore.
Ça, c'est un grand rôle.
Vous n'avez pas le temps, Stéphane. Il faut se concentrer sur l'émission, Stéphane. Non, vous n'avez pas le temps.
Je vous laisse, Mathieu, je vais jouer du Feydeau.
Oui, non,
ici, Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16 heures, historiquement, Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle, elle nous raconte des histoires que l'on croit sur parole. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, de parole, il en est question, Clémentine, puisque vous nous racontez Lili Marlène, cette chanson d'amour la plus connue au monde.
Uns wiedersehen bei der Laterne fährt.
Wollen wir stehen. Moi,
je vais vous laisser peut-être. Hein.
Oui, bon, écoutez-vous, fermez-la, hein, parce que vous voulez nous faire passer, pour des vieux tromblons, alors que.
Oui, bah, excusez-moi, mais là vous m'aidez pas. Hein.
Non,
aidez-moi.
Mais le monde entier connaît Lili Marlène.
C'est comme
si vous connaissiez pas la lettre à Élise ou la petite musique
et donc,
de nuit.
Et donc, elle l'a chantée, Marlène Dietrich. On peut le rappeler, elle l'a chantée dans toutes les langues.
Et assez tard, c'est ça
là,
qu'on
c'est
sait.
Là, c'est en allemand, évidemment, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Goethe. Mais elle l'a chantée en anglais. Pendant la guerre, pour aller redonner le moral aux troupes.
Et les paroles avaient d'ailleurs été modifiées. Parce qu'à l'origine, la chanteuse, la première interprète de Lili Marlène, c'est Lel Andersen. C'est une chanteuse de cabaret à Munich et à Berlin. C'était d'ailleurs plus joyeux, hein. C'est moins nostalgique que les interprétations postérieures. Cette chanson s'appelle alors Lied eines jungen Wachpostens, chanson d'une jeune sentinelle. Et c'est un bide complet. Le disque est vendu à 700 exemplaires. Donc, il est mis au rebut, à la casse. La critique trouve ça infâme et juge ce titre terne et sans rythme jusqu'au 18 août 41. Et ce jour-là, à Belgrade, le programmateur allemand Radio Belgrade, il ne peut pas avoir accès à son stock de disques parce que le stock a été bombardé, le local a été bombardé par les Anglais. Donc, il a rien sous la main.
Il pioche
dans une caisse et dedans, il y a Lili Marlène. Et à l'époque, tous les combattants allemands sur tous les fronts, en Russie, en Afrique du Nord, dans tout le reste de l'Europe, écoutent Radio Belgrade. Rommel, en personne en Afrique du Nord, va devenir un vrai fanatique, non seulement de la radio, mais de la chanson, qui va devenir le générique d'une émission de Radio Belgrade tous les soirs. Tous les soirs, à 21h45, cette émission donne aux soldats allemands sur tous les fronts du monde des nouvelles de leurs petites amies. Et cette chanson devient la chanson star. Il y a une véritable frénésie autour d'elle. Je me demande si même avec les plus grands tubes de la radio plus récents, on a pu faire pareil, parce que à l'époque, les radios allemandes vont la programmer jusqu'à 35 fois par jour. 35 fois par jour, Lili Marlène, vous pensez, elle va être traduite en 48 langues et les Français seront les premiers à l'appréhender. Alors bon, ce qu'il faut savoir et retenir, c'est qu'en fait, à l'origine, celui qui a écrit cette chanson s'inspirait de sa propre jeunesse et de la guerre de 14, où il a été séparé de la fille qu'il aimait, qui s'appelait Marlène, elle était infirmière. Alors, il a écrit une chanson en combinant à la fois le nom de cette infirmière dont il était amoureux et de la nièce de sa logeuse qui s'appelait Lili. Voilà, ça a donné Lili Marlène. Mais ce qui est très, très puissant avec cette chanson, c'est la nostalgie qui s'en dégage, une sorte de sentiment de solitude universelle. Donc, tout de suite, les deux camps l'ont adopté. Et en Afrique du Nord, quand les Anglais et les Français étaient à touche-touche avec les troupes allemandes, la nuit, les Allemands écoutaient ça et les Anglais leur braillaient, mettaient plus fort. Et les deux camps écoutaient Lili Marlène. En 44, quand va sortir la version anglaise, le titre sera vendu à des millions d'exemplaires. Et Lel Andersen, son interprète initial, recevra jusqu'à 120 000 lettres par jour à Radio Belgrade. Toute une génération, toute une époque est bouleversée par cette chanson, à tel point que d'ailleurs la chanson va même cristalliser une rivalité très forte entre Goebbels, qui trouve que cette chanson est démoralisante, et Göring et Rommel, qui elle la trouve l'adore. Et donc qui eux, pardon, oui, qui elle, oui. Göring et Rommel, sinon, qui elle.
On apprend des choses. Oui, on a du mal à l'imaginer. L'histoire est étonnante.
Alors Goebbels, vous le savez peut-être, va transformer la chanson en marche nazie. Il fait détruire la matrice du disque. Ah mais si, parce qu'il la trouve, il trouve qu'elle est démoralisante pour les troupes allemandes. Il fait interdire qu'elle soit interprétée par des femmes. Alors pendant ce temps-là, Emma Göring, elle, fait réaliser un enregistrement par sa fille Eda, sa petite fille de 4 ans. Et on entend sa maman, Madame Göring, qui souffle derrière. Alors je le disais, la France est un des premiers pays à adapter cette chanson avec des paroles françaises par une chanteuse qui s'appelle Suzy Solidor en 41.
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit,
Susie Solidor, qui est une chanteuse de la collaboration. Mais on commence à cette époque à pasticher la chanson. Il y a une version de Pierre Dac. Alors Pierre Dac, il imagine des paroles pour Fiche le cafard aux Allemandes. Mon cœur est triste et lourd, je crains que tu ne meurs à ton tour en Russie, car Hitler le veut ainsi. Hitler, le boucher sanguinaire, pendez-le sous la lanterne, pendez-le sous la lanterne. Dites donc, Pierre Dac, là, c'est pas le ce qu'il a fait de mieux. Enfin, tout ça pour dire que Marlène Dietrich, elle s'empare de cette chanson très tard. On va oublier toutes les interprètes précédentes. Dans l'esprit de tous maintenant, Lili Marlène, c'est Marlène Dietrich. Et la chanson dans sa bouche devient le synonyme de la libération, de la liberté reconquise. Les paroles changent. Nous recréerons un monde rien que pour nous deux. Le temps de la guerre est fini. Maintenant, c'est devenu une chanson langoureuse. Il n'y a plus de clairon. Alors que dans la version initiale, c'était toto. Bon. Alors, Marlène Dietrich, d'ailleurs, était fumasse parce que on la résumait beaucoup à cette chanson, elle ne s'y reconnaissait pas du tout. Les Américains, qui ne perdent pas le Nord, vont profiter de la guerre pour s'en approprier les droits. Et Eisenhower, à la fin de la guerre, écrira à l'auteur Hans Leip qu'il avait été le seul Allemand à avoir rendu des gens heureux pendant la guerre. Hein, belle phrase d'Eisenhower sur Lili Marlène. Quant à Lely Andersen, elle est morte en 1972 à Vienne. Elle avait 67 ans et ironie du sort extraordinaire, le bateau qui a transporté son urne funéraire avait pour nom Lili Marlène. C'était tout à fait fortuit, c'est une pure coïncidence, ça ne s'invente pas. En tout cas, voilà l'extraordinaire histoire de Lili Marlène. Jean-Pierre Guénaud lui a consacré un livre entier aux éditions Télémaque, parce qu'il y a vraiment matière entre la récupération, la destruction, le contexte de la création de cette chanson. C'est une histoire extrêmement riche et passionnante.
Merci beaucoup Clémentine.
Et oui, et Clémentine, vous restez avec nous. Moi, je suis encore sous le choc, j'aurais voulu réécouter encore un petit peu Lili Marlène, c'est tellement bon.
Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor.
C'est beau, mais les amis, trêve de nostalgie. Une autre forme de guerre vous attend. Préparez-vous. Le quiz. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
À quoi tient une réputation ? À pas grand-chose, si on y réfléchit. Ainsi, Stéphane Bern aurait pu passer à la postérité comme un journaliste à l'érudition épatante. Seulement voilà, un jour durant le quiz, alors qu'il était mené 3-0, il a commis l'irréparable, proposé à Clémentine de l'argent pour qu'elle perde, en lui susurrant honteusement...
Ça sera coupé au montage, t'inquiète.
Hélas pour lui, rien dans notre émission n'est jamais vraiment coupé au montage. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, est-ce que vous êtes prêt pour la première question ?
Vous êtes un grand pervers doublé d'un grand malade.
Mais c'est pour ça que vous m'aimez. Oui. Guy Mollet a été président du Conseil de la 4ème République. Oui. En 1956, il propose que la France adhère au Commonwealth. Élisabeth II aurait donc été le chef de l'État français. Vrai ou faux ?
J'ai entendu cette histoire.
Elle est antérieure, à mon avis. Il y a eu une proposition de réunir la France et l'Angleterre, mais au moment de la débâcle, quand Auriol était encore le président français, et à Bordeaux. Le gouvernement français était à Bordeaux, et on a envisagé, pour que la France puisse continuer la lutte malgré le possible armistice, que France et Angleterre ne deviennent qu'une seule nation. En revanche,
l'histoire du Commonwealth, c'est vrai.
Vous êtes sûr de ça, Stéphane ?
Non, c'est une intuition que j'ai. J'ai lu ça quelque part. Je crois qu'il y a deux histoires, Clémentine. Il y a l'histoire, effectivement, de réunir les deux nations pour que l'Angleterre continue la guerre que la France n'était plus en mesure de mener. Mais il y a aussi une histoire qu'on a proposée que la France adhère au Commonwealth.
Mais c'était pas sérieux, ce projet. Enfin, le projet a pu être dans l'air, mais c'est comme faire piloter des missiles par des pigeons, si vous voulez.
Ne vous parle pas de projet en l'air. Je vous demande, Stéphane, si Guy Mollet, président du Conseil de la 4ème République, a proposé en 56 que la France adhère au Commonwealth, ce qui aurait fait d'Elisabeth II chef de l'État français.
56, c'est Suez. Qu'est-ce qu'on ferait à aller rejoindre le Commonwealth ?
C'est Suez.
Alors qu'on est en train de se... Bah, enfin, écoutez...
Écoutez,
Stéphane, ne vous laissez pas influencer.
C'est Suez qui a fait échouer le projet.
Vous voyez la France rejoindre le Commonwealth ?
Non, mais c'est
un cauchemar. Alors il a.
Ouais, non mais vous énervez pas. Je vous demande pas
commenter.
De commenter. C'est une réalité historique.
Bon, allez Stéphane, écoutez votre instinct.
Je crois qu'il y a eu un projet. Et qu'en 56, la guerre de Suez a fait couler
a
torpillé complètement au fond du canal ce projet. Donc je dirais, écoutez, je me vautrerai en public, mais je dirais oui.
Vous avez gagné.
Yes. C'est quand vous pensez vous voterez que vous triomphez le mieux, Stéphane. Aucune trace dans les archives.
Elle a tout essayé.
Oui, elle a tout essayé pour vous déstabiliser.
C'est pas faute d'avoir essayé.
Elle a essayé de noyer le poisson.
J'allais venir sur le nom de Guy Mollet, là, qu'il ne pouvait pas avoir. Bien sûr, avec un nom pareil, il a voulu qu'on rentre dans le Commonwealth.
Mais écoutez-moi. Aucune trace dans les archives françaises de cette initiative. Mais dans les archives anglaises, oui, c'est la crise du canal de Suez. Mollet prépare une intervention militaire pour le récupérer. En anglophile convaincu, il a fait cette proposition que Anthony Eden, son homologue, a refusée. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi, puisqu'évidemment, ça bénéficiait essentiellement aux Britanniques. C'est incroyable cette histoire. Personnellement, je ne la connaissais
pas. Bien sûr, mais c'était un projet fumeux. Ça, c'est pas sérieux, votre histoire.
C'est quand même Guy Mollet qui est à l'origine de ça. C'est un point pour Stéphane.
Et ben, j'avais vu quelques... Non, mais je le savais.
Oui, parce qu'il est proche de l'épectacle.
Il m'en faut plus, vous avez clémenté.
Vous avez gagné sur Guy Mollet, le canard de Suez, pour rentrer dans le Commonwealth.
Ça, ben, ça ferait un bon titre pour, attention, au titre de, prochain titre de France Dimanche. Hein, Épectase pour Stéphane Bern avec Guy Mollet.
C'est plus une épectase qu'un œuf mollet.
Vous avez vu dans quel état le canal de Suez. Il était complètement bouché il n'y a pas si longtemps. Là, par un
alors,
super
ça fait déjà 10 minutes que ce quiz a commencé. Nous n'avons fait qu'une seule question. Nous allons maintenant passer à la deuxième question, Clémentine, si vous voulez bien. Maria Otkiabskaya a été la première femme à conduire un char russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ayant appris la mort de son mari, folle de rage, elle vend sa maison et tout ce qu'elle possède, elle achète un char, apprend à le conduire en 5 mois seulement et elle part au front. Vrai ou faux ?
Oui, bah ça, c'est tout à fait possible. Hein. On a déjà évoqué les sorcières de la nuit qui étaient ce régiment, ce bataillon de femmes pilotes. Donc, qu'une femme ait pu s'acheter un char d'assaut, c'est ça que je trouve bizarre. Parce qu'à l'époque, on lui aurait dit, ben voilà, enfin des chars d'assaut, on n'avait pas...
Attention, c'est oui ou c'est non. Ah, tout,
est-ce
c'est
qu'elle
tout,
a acheté,
à laisser,
est-ce qu'elle
toute
a
la question.
Elle aurait vendu sa maison pour acheter un char d'assaut.
Ayant appris la mort de son mari, folle de rage, elle vend sa maison et tout ce qu'elle possède, achète un char, apprend à le conduire et part au front.
Il ne faut pas 5 mois pour apprendre à conduire un char, c'est ça qui était étrange dans votre histoire. Et ça serait une superbe histoire d'amour et donc je ne la connais pas. Voilà, moi qui suis une amie de l'amour et de l'armée française et soviétique.
Qui vont si bien ensemble.
On dirait les actualités des années 30 quand vous parlez.
C'est incroyable.
Attendez, le jour où je me pincerai le nez, ça fera encore plus vrai. Je dis oui.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne
voilà,
réponse.
Ça, c'est la
une
force
belle
de l'amour.
Histoire. Comme vous les aimez, elle deviendra cette femme, donc Maria Otkiabrskaya. Elle deviendra héros de l'Union soviétique. Elle avait même écrit à Staline pour qu'il lui donne la permission d'aller au front avec son char. Il accepte. Elle va tuer de nombreux soldats allemands, mais en janvier 44, alors qu'elle tente à l'extérieur de son char de le réparer, elle est frappée par des éclats d'obus. Après 2 mois de coma, elle succombera à ses blessures. Mais on peut imaginer qu'elle retrouve dans l'au-delà.
Bah, chez les soviétiques, l'au-delà, on n'y croit pas trop, cher monsieur.
Vous avez raison. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Le sacre de Napoléon, le serment des Horaces, la mort de Marat, Bonaparte franchissant le grand Saint-Bernard, Jacques-Louis David est le peintre néoclassique par excellence. Comme vous, Stéphane, il avait un profil préféré, sauf que lui, c'était à cause d'un kyste. Vrai ou faux ?
Il avait un kyste.
Turenne avait un gros poireau, là, mais il se faisait représenter avec, ça ne le dérangeait pas du tout.
Oui. Vauban aussi avait des marques sur ses portraits. Il
avait demandé qu'on les laisse.
Comme autant de
c'est marrant, je vois pas David.
J'ai jamais vu David.
Il avait créé une école de peinture qui s'appelait les Crassons. Je pense que c'est il aurait pas dissimulé un kyste. Enfin, en même temps, c'est pas un personnage très sympathique, David. C'est un homme assez obséquieux, assez servile.
Bon, écoutez, moi, je pense que effectivement, il avait un problème. Quand même.
Ah oui.
Regardez Stéphane, comment il a représenté Marie-Antoinette sur sa charrette.
Oui.
C'est infâme, enfin.
Oui, c'est infâme.
Vous pouvez pas dire que vous aimez le bonhomme. Son œuvre, oui, mais l'homme, non.
J'aimerais qu'il ait un kyste.
Espère bien qu'il avait un gros kyste, très douloureux,
un furon. Avec des poils autour.
Découvrons la réponse de nos historiens.
Vous avez gagné.
Une fois de plus, vous avez fait preuve de nuance et de pondération dans l'évocation de ce kyste, de neutralité politique également. Bravo. Bravo Stéphane, c'est vrai. Jacques-Louis David, quand il faisait un autoportrait, il ne montrait jamais son profil gauche. La presse royaliste le surnommait Grosse Joue. Cette tumeur avait été consécutive à un accident d'escrime. Il avait à cause d'elle du mal à s'exprimer. Question numéro 4, attention.
C'est très intéressant.
Oui, il ne pouvait pas parler.
Oh, vous faites bien. Question numéro 4, Clémentine, elle est pour vous. Attention, il faut répondre juste. Au XVIIe siècle, on appelait la tuberculose la peste blanche. En 1882, suite aux travaux de Pasteur, un médecin allemand, Robert Koch, met en évidence sa bactérie. D'ailleurs, quand on dit virer sa cutie, c'est à cause de la tuberculose. Vrai ou faux ?
Ah, c'est rigolo. En quoi virer sa cutie ? Je me souviens, quand on était petit, oui, on était baptisé avec une petite, vous vous souvenez, un petit peu comme une plume sergent-major, là. On appelait ça la cutie. Et alors, pourquoi virer sa cutie ? Parce que virer sa cutie, c'est changer d'avis. Et quel rapport avec la tuberculose, en effet ? Bon, je réponds oui, mais vraiment tout à fait au pif.
Gagné ! Bonne réponse au pif de Clémentine. À l'époque, pour vérifier qu'une personne était immunisée, on procédait à un test cutané, la cutie. S'il virait au rouge, le patient était contaminé par la tuberculose. Égalité entre nos deux fervents historiens. Question numéro 5, c'est la question de rapidité. Attention, nous partons au Japon. Je sais que vous aimez partir au Japon, surtout en ces temps où on ne voyage
plus
beaucoup.
On aime partir au Japon et en Égypte à bord du Titanic. Mmh. Ça, c'est vraiment notre grand truc.
Ici, tout est possible dans cette émission. Alors attention, Ananuma Masakichi était très fort en Ikiningyo.
En quoi ?
En Ikiningyo, évidemment.
C'est quoi l'Ikiningyo ?
Non, écoutez, laissez-moi. Laissez-moi finir la question. Si vous n'avez pas de culture, c'est votre problème. C'était un sculpteur japonais du 19e siècle, exposé dans le monde entier. Et le Ikiningyo, comme vous devriez le savoir. Normalement, c'est l'art des sculptures d'un réalisme extrême. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Ananuma Masashiki ? 1. Un tueur à gages a voulu tirer sur la statue autoportrait de l'artiste pour l'abîmer. Pas de bol, c'était l'artiste lui-même. 2. Apprenant qu'il allait mourir, il a fait une statue de lui pour sa maîtresse. Pas de bol, elle a rompu en recevant le cadeau. Ou 3. Il a fait une statue hyper réaliste de l'empereur Matsuhito. Pas de bol, ça lui a pas plu. Il a été emprisonné à vie.
3.
Vous avez...
1, 2, 1, 1, 1.
Oh ! Qui a dit 2 ?
C'est moi ! Mais je sais plus ce que c'était, 2.
Oh, vous ne savez plus ce que c'était. C'était la bonne réponse.
Ah, il a fait
vous
une statue.
Vous avez gagné.
Ah, mais oui, en fait, j'ai dit.
Clémentine.
Ça m'évoquait.
L'amour. Toujours l'amour. C'est-à-dire, elle gagne au pif. Maintenant, on le saura. Clémentine, elle gagne au pif. Voilà.
Eh bien, alors, écoutez, bon. Clémentine, c'est une sublime victoire.
Ouais, bon, sublime, faut pas exagérer.
Sur le kyste de David et le canal de Suez.
Il s'était fait larguer, notre Masashiki. Il a fait une statue de lui. Il s'est arraché les ongles pour les mettre sur son œuvre, mais aussi ses cheveux, mais aussi ses dents. En voyant, non pas la statue, mais en voyant l'artiste, sa femme l'a quitté. Il est mort 10 ans plus tard dans une extrême pauvreté. La statue est composée de 5000 éléments de bois parfaitement assemblés, sans irrégularité, même à la loupe. On peut la voir aujourd'hui à Amsterdam. Je vous invite à la découvrir. Nous irons ensemble. Bravo Clémentine.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vaud, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter autour chaque après-midi de trois personnages qu'on réunit en exclusivité pour vous dans le studio Coluche. Aujourd'hui, Mathieu, trois plaisantins qui ont laissé leur trace dans l'histoire.
Oui, Stéphane, c'est en revisionnant pour la 47e fois Le Père Noël est une ordure que j'ai eu l'idée de ce thème.
C'est-à-dire, on va vous parler franchement, monsieur Breskovic. Comme on ne vous voyait plus dans l'immeuble, on pensait que vous étiez décédé.
Vous êtes caustique.
Thierry l'ermite était caustique, mais il n'était pas le premier.
Oui, avant lui, il y a eu d'autres as de la pique. Après Georges Feydeau, je vous raconte le destin de Roger de Bussy-Rabutin, un courtisan passé maître dans l'art de la réplique qui fait mouche et qui lui a fait mal aussi, vous verrez. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un grand caustique qui est tout sauf un courtisan.
Il est en fait l'inverse d'un courtisan. Il désingue à tout va, un acteur et humoriste sans limite qui nous a régalé lors de la dernière cérémonie des Golden Globes. Il n'est pourtant pas hyper connu en France, c'est Ricky Gervais. Je vous expliquerai qui il est. Et puis, cette deuxième heure sera également celle de l'entrée en piste de nos chroniqueurs adorés.
À commencer par David Castello-Lopez. David, vous nous racontez les origines.
Tout à fait, d'un kiosque à journaux particulier qu'on voit encore un petit peu à Paris. J'en ai amené une photo ici pour les gens qui regardent Europe 1 au lieu de l'écouter. C'est ces kiosques en plexiglas avec des boules et des tiges en métal qui ressemblent un petit peu à l'atomium de Bruxelles. Vous voyez Et ben moi, voilà, c'est ce genre de petites choses que je m'intéresse.
Et quand ils sont fermés, on dirait des hexagones.
Oui, c'est vrai, tout à fait, exactement.
Avec nous également, Olivier Pouls.
Et oui, et moi je vous emmène en voyage gastronomique, les amis,
faites vos valises, nous partons pour l'Italie, pour le nord de l'Italie, déguster ensemble un délicieux ossobuco. Je vous raconterai l'histoire du plat et une recette, évidemment.
Et puis Stéphane sera là pour nous livrer son mot de la fin, l'histoire d'une expression, Stéphane, aujourd'hui.
Oui, quand on dit du mal de quelqu'un, c'est le thème de l'émission, hein, on dit qu'on taille des croupières. Enfin, quand je dis « on dit », je parle surtout de moi, je vais vous donner l'origine de cette expression.
Mais d'abord, il est temps de découvrir notre deuxième as de la pique de l'histoire, il officiait du temps de Louis XIV. Mieux valait ne pas se le mettre à dos. Stéphane Bern nous raconte Roger de Bussy-Rabutin.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Si vous ne le connaissez pas, le pamphlétaire, le satirique, le libertin Roger de Bussy-Rabutin, une simple anecdote suffit à vous le présenter. En 1659, il a 41 ans. Si en avril, le dicton préconise de ne pas se découvrir d'un fil, Roger de Bussy-Rabutin et quelques amis en ont décidé autrement. Pendant la Semaine Sainte, ils décident de se réunir pour fêter à leur manière le week-end pascal. Leur scène à eux n'a rien de biblique. Ils auraient pendant 3 jours, et selon l'opinion publique, commis des folies. Comprenez, Rabutin et d'autres libertins s'adonnent à une orgie quasi bestiale quand le reste du royaume célèbre les rameaux. Un comportement inacceptable et surtout un affront au pouvoir royal et divin voulu par le roi Soleil Louis XIV. Le premier ministre Mazarin, pour punition, ordonne à Roger de Bussy-Rabutin de s'exiler dans son fief bourguignon. Une trajectoire étonnante pour cet enfant bien né qui aurait dû s'illustrer uniquement sur les champs de bataille. Élève brillant, le petit Roger devient un militaire chevronné. Il participe aux campagnes de la guerre de 30 ans, dirige un régiment, mais très vite, son tempérament frondeur et impertinent prend le dessus. À 23 ans, pour le punir d'avoir laissé son régiment sans surveillance, alors qu'il courtise une marquise, il est embastillé. Le jeune homme est intrépide, libre penseur, et n'hésite pas à brocarder ses supérieurs comme le vicomte de Turenne. Henri de la Tour était un homme entre deux tailles, large d'épaules, lesquelles il haussait de temps en temps en parlant. Ce sont de ces mauvaises habitudes que l'on prend d'ordinaire, faute de contenance assurée. Il avait les sourcils gros et assemblés, ce qui faisait une physionomie malheureuse. Mais son bagout, sa détermination permettent à Roger de Bussy-Rabutin de gravir les échelons et de se rapprocher du pouvoir. Il devient général des armées royales sous Louis XIV. Hors de question, cependant pour lui, de se plier à l'étiquette et d'enchaîner les courbettes. Roger de Bussy-Rabutin n'est pas de ceux qui s'effacent. Il se moque de tous les membres de la cour. Pour cela, il peut compter sur sa cousine Marie de Rabutin-Chantal, plus connue sous le nom de Madame de Sévigné. Tous deux manient les mots comme peu de leurs contemporains. Ils inventent même un terme pour illustrer leurs échanges corrosifs, le rabutinage. Si Madame de Sévigné s'est restée discrète, son cousin, lui, est vaniteux, souvent vantard, et un événement va le marginaliser définitivement aux yeux de la cour. L'histoire amoureuse des Gaules. Alors en exil en Bourgogne pour son orgie durant le week-end de Pâques, Roger de Bussy-Rabutin rédige ce roman historique. Mais évidemment, l'écrivain ne dépeint pas un tableau idyllique de la cour. Au contraire, au fil des pages, il égratigne les figures emblématiques qui gravitent autour du roi Soleil. C'est ainsi que Condé est affublé de la physionomie d'un aigle, mais aussi qu'il a les dents mal rangées et mal propres et qu'il rit désagréablement. La duchesse de Châtillon a, quant à elle, tant d'amants qu'ils sont comme une hydre. En mythologie grecque, l'hydre est le serpent qu'Héraclès décapite. À chaque fois repousse deux têtes. Ici, Rabutin sous-entend que les amants de la duchesse sont légions. Marcillac, le fils de la Rochefoucauld, est tout simplement un âne. Il en a la bêtise dans son comportement avec les femmes, mais aussi la mâchoire. Mais Roger de Bussy-Rabutin n'épargne personne, pas même sa cousine, Madame de Sévigné. La plus grande application qu'est Madame de Sévigné est de paraître tout ce qu'elle n'est pas. Depuis le temps qu'elle s'y étudie, elle a déjà appris à tromper ceux qui ne l'avaient guère connue. Ils l'ont découverte et se sont aperçus malheureusement pour elle que tout ce qui reluit n'est pas or. Mais la critique qui va provoquer sa disgrâce touche de plein fouet l'homme, que dis-je, l'incarnation de Dieu sur terre. Bussy-Rabutin s'attaque au roi Louis XIV en personne. Dans son histoire amoureuse des Gaules, il relate avec ironie la relation intime entre le jeune roi et Marie Mancini, la nièce de Mazarin. À peine eut-il atteint l'âge de 17 ans qu'il s'adonna tout entier à la félicité de la nièce du cardinal Mazarin. Le premier coup d'œil qu'il jeta sur cette demoiselle fut dans le jardin des Tuileries. et que dès ce moment-là, il la reconnaissait comme sa souveraine. Initialement, ces chroniques de la cour de France n'ont pas vocation à être publiées. Roger de Bussy-Rabutin veut simplement impressionner quelques amis et surtout sa maîtresse, Madame de Montglat. C'est sans compter sur la marquise de la Baume avec qui il est en froid. Elle se procure le manuscrit et derrière son dos, elle fait publier ce pamphlet. D'abord en Hollande, puisqu'aucune imprimerie française ne souhaite prendre le risque de l'éditer. Louis XIV a connaissance du manuscrit. Alors qu'il vient à peine d'être admis à l'Académie française, l'insolent Bussy-Rabutin est emprisonné sur ordre du Roi Soleil. Après 13 mois enfermé, il est congédié dans son château en Bourgogne. Il y reste 27 longues années. L'écrivain la plume acide en profite pour écrire ses mémoires, mais aussi restaurer son château. Il fait peindre près de 500 portraits des nobles de la cour de France afin de se sentir moins seul dans sa forteresse. C'est surtout pour Roger de Bussy-Rabutin l'occasion de continuer de railler ses proches du roi, lui qui a passé une grande partie de sa vie à ridiculiser leur existence. Il fait par exemple inscrire cette légende, peu bienveillante, juste en dessous du portrait de la comtesse d'Olonne. La plus belle femme de son temps, moins fameuse pour sa beauté que pour l'usage qu'elle en fit. Mais il peut se montrer aussi très menaçant, voire dangereux envers ceux qu'il aime. Sa fille épouse en secret un ami bien plus âgé. L'écrivain voit rouge et prend une décision radicale. Il séquestre sa fille pour l'empêcher de filer le parfait amour avec son mari. Le père tyrannique est sommé de la libérer à la suite d'un procès qui le condamne. En 1683, une lueur d'espoir renaît. Le roi Louis XIV pardonne à Roger de Bussy-Rabutin et lui accorde l'immense privilège d'assister à son lever. Si les premières semaines, il semble dans les bonnes grâces de Versailles, progressivement, le souverain et la cour s'en éloignent, encore trop frileux à l'idée de côtoyer ce chroniqueur imprévisible qui s'éteindra 10 ans plus tard.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Roger de Bussy-Rabutin, nous sommes avec le spécialiste, il connaît tout de lui, Daniel-Henri Vincent. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour Daniel-Henri Vincent, vous êtes le grand spécialiste de Bussy-Rabutin pour lui avoir consacré la plupart de vos ouvrages. Le dernier Bussy-Rabutin, Le Libertin Puni, a été publié chez Perrin. Libertin, homme d'esprit, écrivain caustique, vous aimez-vous autant l'homme que la plume ?
Si le conte de Roger de Bussy-Rabutin mérite de rester dans l'histoire, en fait c'est moins à cause de sa vie que parce qu'il en a dit, dans ce qu'il a raconté, notamment par ses mémoires, qui ont une, comment dirais-je, un goût, une saveur des trois mousquetaires. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'il est intéressant.
Avant d'aborder sa punition, parlons un peu du libertin. Qu'est-ce qui fait de lui un grand libertin, au sens où on l'entendait, en tout cas au XVIIe ?
Quelque part, Bussy-Rabutin est le parfait libertin, c'est-à-dire qu'il est, au sens moderne du terme, un libertin de mœurs, mais c'est aussi, et ça c'est beaucoup plus grave à l'époque, un libertin vis-à-vis de la religion, et même un peu vis-à-vis de la politique.
Mais il y a une contradiction quand même, parce que bon, Bussy-Rabutin avait deux passions, c'était évidemment d'écrire des horreurs et de courtiser les femmes. Et dans le même temps, chaque fois qu'il est puni, il a qu'une envie, c'est être reconquérir le roi, être invité à Versailles, de nous. C'est assez contradictoire. Si déjà on est caustique et l'as de la pique, faut l'assumer. Mais il avait l'âme d'un courtisan.
Il était de son temps, c'est-à-dire que à l'époque du début du règne de Louis XIV, il était extrêmement difficile d'être un bon aristocrate, et il l'était, et en même temps complètement coupé du roi et coupé de la cour. Il fallait être de quelque chose à la cour, et c'était son goût. Mais d'un autre côté, son esprit le conduisait effectivement à dire des horreurs, à raconter les choses à sa manière et à faire rire sur ses contemporains.
Mais pour rebondir sur la question de Stéphane, il menait finalement un double jeu. C'est fascinant parce qu'il est à la fois dans le système, il réussit par exemple à être nommé général des armées royales sous Louis XIV, et à la fois en dehors. Pour vous, qui le connaissez bien, qui l'avez étudié, il ne souffrait pas de jouer ce double jeu, c'était inscrit dans son époque, il ne pouvait pas faire autrement finalement.
Moi personnellement, je ne le ressens pas du tout comme un double jeu. D'abord, sa carrière militaire, elle est tout à fait parallèle à sa carrière d'honnête homme. Les grades militaires qu'il a acquis, il les a acquis par son comportement sur les champs de bataille, par son courage, par son aptitude à se battre. Donc sa carrière militaire, il l'a bâtie sur le terrain de bataille. par ses qualités. Et puis, en parallèle, c'est vrai que il, lorsque, d'abord, on ne faisait pas la guerre toute l'année, vous savez, à cette époque-là. Et donc, quand il se retrouvait à la cour, quand il se retrouvait à Paris, eh bien, il avait une vie sociale, une vie de salon, et il se plaisait à brocarder, se moquer des gens.
Mmh. Parlons de son langage. Le rabutinage qu'il a inventé avec Madame de Sévigné. Comment dépeindre son style plutôt féroce?
Alors, c'est vrai que le dialogue, ce rabutinage est fait de, bah d'abord de beaucoup d'esprit, car c'était deux personnages de très grand esprit. Et puis, il est fait de connivence, il est fait de mots qui montrent qu'ils se comprennent justement à demi-mot, qu'ils partagent le même esprit, qu'ils partagent au fond la même façon de se situer dans le monde et dans la société de leur temps. Ils ne sont pas évidemment ni l'un ni l'autre ennemis de quelques bonnes piques, quelques chutes, quelques mots d'esprit, et il y en a beaucoup.
C'est une langue très vive, hein, mais aussi une langue très imagée avec pas mal de métaphores. Moi, ça me fait penser, quand le portrait qu'on faisait tout à l'heure, Stéphane, ça me fait penser au film Ridicule de Patrice Leconte. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation chez lui où tout est essentiellement écrit? Ou est-ce que les pics peuvent jaillir comme ça dans l'impro, comme on dirait aujourd'hui?
Alors, évidemment, nous n'en avons les traces qu'écrites, ou les témoignages. C'est-à-dire que nous devons passer par l'intermédiaire de l'écrit. Nous ne savons pas comment, en réalité, il pouvait être dans les salons. Mais du côté de Madame de Sévigné, l'écriture était quand même très largement spontanée, et c'est en cela, d'ailleurs, qu'il vantait les qualités de sa cousine, y compris vis-à-vis du roi. C'est lui qui a fait connaître Madame de Sévigné, c'est lui qui a fait lire les lettres de Madame de Sévigné. Et puis lui, de son côté, bien sûr, il écrivait avec la conscience d'un écrivain, c'est-à-dire qu'il avait vraiment le sentiment, d'abord il était de l'Académie française, il était un oracle des lettres à son époque, il était consulté sur les ouvrages, il défendait les grands auteurs de l'époque, il défendait La Fontaine, il défendait Molière, il défendait Boileau, enfin. Bon. Et ce personnage écrivait avec la conscience d'écrire. Et c'est vrai que la langue, le rabutinage entre Madame de Sévigné et lui, ce rabutinage est toujours délicieux à lire. Hein. Il faut se plonger dans leurs lettres et c'est admirable.
Et puis il y a l'histoire amoureuse des Gaules. Je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon récit, il n'avait pas vocation à être publié, mais il l'avait écrit à l'origine pour séduire une femme, sa maîtresse. On peut le dire quand même, les femmes, ça a été son principal moteur dans l'existence.
Ah, il aimait les femmes, oui. Il aimait les femmes et il aimait dire les femmes. Il aimait chanter les femmes. Il aimait en faire des personnages au centre, au fond, de toute son attention. L'histoire amoureuse des Gaules est presque à mettre un peu entre parenthèses. C'est-à-dire que d'abord, il faut quand même lui donner sa place dans la littérature française. Hein. C'est à des tout premiers romans français. Il participe à la création du genre littéraire qui s'appelle le roman. À côté, donc, de l'histoire amoureuse des Gaules, là où les femmes apparaissent dans toute leur vérité, c'est dans l'œuvre de moraliste de Bussy, et notamment dans ce qu'on appelle ses Maximes d'amour. Et cet ouvrage admirable, le roi aimait le lire sans, quelque part, d'une façon presque intime, le lisait avec Madame de Lavallière. Et ça a été un des grands plaisirs de Bussy de le donner au roi. Et c'est d'ailleurs cela qui a, en grande partie, justifié son élection à l'Académie française.
Vous dites dans votre livre que Molière a carrément pris Roger Bussy-Arbutin pour modèle. Comment ça s'explique?
Alors, un des modèles, ce n'était pas le seul. Hein. Effectivement, il est assez simple de constater que Bussy-Arbutin, quand on connaît sa vie et son libertinage, notamment en matière religieuse, peut tout à fait coller avec le personnage de Don Juan, même si, bien sûr, le Don Juan de Molière s'appuie sur une tradition bien, bien antérieure. Mais c'est vrai qu'il est un des modèles de Molière qu'il défendait, je vous l'ai dit. Et mais à la différence du Don Juan de Molière, notre Bussy-Rabutin n'est pas mort emporté par quelques commandeurs dans les flammes de l'enfer. Il est tout simplement mort d'une attaque d'apoplexie à Autun.
Et l'histoire amoureuse des Gaules a valu à Bussy-Rabutin des années de prison et puis surtout l'exil sur ses terres. Vous affirmez que finalement sa punition fut heureuse pour nous et pour lui. Sans elle, il aurait été un maréchal de France comblé, occupé à la guerre et à la cour. Il n'aurait guère écrit. J'ajouterais que sans son exil forcé en Bourgogne, le château de Bussy-Rabutin n'aurait pas la beauté qu'il a aujourd'hui. Voilà, et qu'on pourra visiter dès que les sites patrimoniaux pourront ouvrir.
Oui.
Qu'en pensez-vous?
C'est ça qui est étonnant. Alors bien sûr, pour sa vie personnelle, l'exil a été un drame. Ça a été la mort sociale. Et donc, on peut aussi expliquer toute sa correspondance, qui est une des plus importante du XVIIe siècle, plus de 2000 lettres, des centaines de correspondants. Cette correspondance, c'est pour lui la manière d'éviter la mort sociale que représente l'exil en province. Un exil de 17 ans seulement, c'est déjà pas mal. Mais ce Bussy, en écrivant, revit, enfin tisse des liens avec tous ses contemporains, et c'est cela qui fait que il est d'une grande richesse, y compris patrimoniale, puisque pendant son exil, il a aussi décoré, vous le signaliez, son château de Bussy qui a été bien entretenu par l'État, mais qui mérite encore quelques améliorations qui sont en cours grâce à quelques fonds. Les bienvenus.
Oui, on y travaille avec du patrimoine, notamment. Daniel-Henri Vincent, je crois que vous êtes sur l'écriture d'une autre biographie, celle de l'amiral Violette. Mais en tout cas, je rappelle votre livre, Bussy-Rabutin, le libertin puni, et qui est publié chez Perrin. Merci beaucoup d'avoir été avec
nous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on s'en paye une bonne tranche en évoquant les grands caustiques de l'histoire, de Georges Feydeau à l'humoriste et comédien anglais Ricky Gervais, dont vous nous brossez à présent, Mathieu, le portrait à 99% vrai. Je le connais peu. Il est vraiment drôle.
Difficile à dire, Stéphane, l'humour est quelque chose de si relatif. Vous, par exemple, vous semblez assez friand d'un humour basé sur les jeux de mots dont vous nous gratifiez tous les jours hors antenne.
Yves Montand. Comment on peut décrire ce montant-là? Bah, c'est un montant de porte.
Faire bouffer du fugu, le poisson qui tue s'il est mal cuisiné.
Ça s'appelle faire du Fukushima.
On va la garder, celle-ci. Afin que vous ne soyez pas déçus, je préfère vous prévenir, Stéphane. Ricky Gervais est beaucoup moins bon que vous en jeu de mots. Son point fort à lui, c'est plutôt la causticité. C'est lui, par exemple, qui a dit un jour « Souvenez-vous, quand vous êtes mort, vous ne savez pas que vous êtes mort. Ce sont seulement les autres qui souffrent. Eh ben, c'est pareil quand vous êtes con. » Oui, signalons à la team premier degré qu'elle peut profiter du temps de ce récit pour vaquer à ses occupations de team premier degré, comme se plaindre à un service client, discuter de la 5G sur Twitter, ou poster des citations de Paulo Coelho sur Instagram. Ricky Gervais n'est pas un humoriste Canada Dry. Il attaque fort, il tape dur, et certains, dont moi et ses 14,5 millions d'abonnés Twitter, on aime ça. Ce qu'on aime surtout d'emblée, c'est que Ricky est anglais. Or, c'est comme ça, si vous voulez, comme la mer est bleue, comme la terre est ronde, les Anglais sont naturellement plus drôles que nous. Baladez-vous à Londres, parlez à n'importe quel anglais, littéralement le premier sur lequel vous tombez, vous constaterez avec étonnement qu'il est beaucoup plus drôle qu'un réhabitant. Alors que si ça se trouve, il est comptable ou proctologue, c'est même pas son métier. C'est une injustice, mais c'est ainsi. Alors imaginez maintenant un anglais qui serait né en plus avec un don particulier pour l'humour. C'est exactement ce qui se passe dans le Berkshire en 1961. Vif et déjà drôle, le jeune Ricky régale ses camarades de classe de ses facéties qui, sauf votre respect David, sont un peu plus élaborés que la quéquette à Chirac. Le bac en poche, il part étudier la philosophie à l'université de Londres. Il s'essaye en parallèle à la musique, crée même un duo, Seona Dancing, qui sera signé par une maison de disques. Alors ça fera un bide, ce qui est dommage, car très franchement, bah aujourd'hui ça ferait une très bonne BO pour une série Netflix qui surferait sur la nostalgie des années 80, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas trop mal. En 96, alors qu'il bosse pour une station radio, Ricky fait la rencontre décisive de Stephen Merchant, son alter ego humoristique, qui sera ensuite de tous ses projets. Dans cette décennie 90, les deux acolytes écrivent des sketchs pour des comédies shows de la BBC, dans lesquelles Ricky fait également quelques apparitions. En 2000, il anime son propre talk show Meet Ricky Gervais, mais les audiences n'étant pas au rendez-vous, l'émission est rapidement déprogrammé. C'est l'année d'après que tout bascule. Les aficionados l'ont reconnu aux premières notes, Stéphane.
C'est Serge Lama.
Non, c'est le générique de The Office. The Office, la série culte qu'a fait et qui a fait, quelque part, Ricky Gervais. À la base, c'est son pote Stephen Marchand, dont je vous ai parlé, qui doit réaliser un faux documentaire pour la BBC, un mockumentaire, comme on dit en joli français. Son action se déroule dans une PME, avec Ricky dans le rôle du patron. Le personnage de David Brent, le héros de The Office, est né, car ce qui n'est alors qu'un court-métrage tombe dans les mains du boss de la BBC 2, qui commande immédiatement un pilote. La première saison de The Office est diffusée en juillet 2001. La série conserve le style faux documentaire et nous montre les hauts et les bas des employés de Wernham Hogg, une entreprise située à Slough en Angleterre et spécialisée dans le papier. Au programme, l'exploration comique de la banalité du quotidien en entreprise, composée des petites mesquineries entre collègues, de la trivialité de certaines tâches et de la relative implication de certains salariés, et surtout du management pathétique d'un patron qui tente de se la jouer cool, mais dont les blagues sont essentiellement lourdingues, comme quand à Europe 1, quelqu'un demande où est passé le stabilo et que Stéphane ne peut pas s'empêcher de répondre
« Dans ton cul, oh non !»
Voilà, Ricky Gervais incarne donc David Brent, le manager... Mais pourtant, vous avez prononcé cette phrase, mais j'ai du mal à me souvenir dans quelles circonstances. David Brent, c'est le manager qui aurait voulu être un artiste et qui tente donc de faire preuve d'esprit devant ses salariés. La saison 1 passe malheureusement un peu inaperçue, mais c'est le bouche à oreille qui, tout d'un coup, comme une traînée de poudre, va consacrer la série, révéler Ricky Gervais et le faire accéder au rang de superstar. La saison 2 cartonne avec des pointes à plus de 4 millions de téléspectateurs. Que fait alors notre Ricky ? Il refuse les propositions juteuses que lui font les Américains pour ne pas abîmer l'image de la série, re-signe sagement pour le même montant avec la BBC ? Eh ben non, il prend la thune, bien sûr ! Ah bah il a attendu 40 balais pour connaître le succès, maintenant il se rattrape le Ricky. De toute façon, et si vous allez voir ce qui le définit, il s'en fout de tout. Sa devise dans la vie est aussi drôle que juste, rappelez-vous que si vous ne commettez aucun péché, Jésus sera mort pour rien. Et ça, je trouve ça vraiment très malin. Gervais et Merchant adaptent donc la série pour le public américain, avec Steve Carell dans le rôle titre. Gros succès là encore, il décroche 2 Golden Globes, écrit un épisode des Simpsons. Au cinéma, on le retrouve dans La Nuit au musée de Ben Stiller, mais c'est sur scène que Ricky Gervais, l'insolent, prend toute sa mesure. Stand-upper de génie, on lui propose un jour de présenter les Golden Globes. Il va la présenter 5 fois. Plus qu'un record, un miracle, vu la quantité d'acide et d'humour noir qu'il déverse à chaque fois sur tout le gotha hollywoodien. Tout y est passé, le Botox d'Angelina Jolie, le squelette gay dans le placard de Tom Cruise, Bruce Willis présenté comme le papa d'Ashton Kutcher à l'époque en couple avec Demi Moore, il ne s'interdit absolument rien. Ricky Gervais, si vous voulez, c'est comme la séquence où Laurent Lafitte évoque le César du meilleur français dans une actrice américaine.
Alors les nommés pour le César du meilleur français dans une actrice américaine sont... Benjamin Millepied dans Nathalie Portman, Olivier Martinez dans Ali Berry, François Pinault dans Salma Hayek, Brahim Zaibat dans Madonna.
Alors ça, dans toute l'histoire des Césars, c'est le seul moment qui se rapproche de l'humour de Ricky Gervais, avec qui c'est donc ça en anglais pendant 2 heures que durent les Golden Globes. Ah oui, ça va plus vite que les Césars. En 2020, il a fait ce que Nikos Aliagas aurait rêvé de faire au Energy Music Awards, annonçant d'emblée, je cite, devant donc toutes les plus grandes stars d'Hollywood, « Si vous gagnez, montez prendre votre prix, remerciez votre dieu et votre agent et cassez-vous ». Au terme d'un des monologues les plus drôles mais aussi les plus féroces de l'histoire de la cérémonie, déjà il est arrivé sur scène avec une pinte de bière à la main, puis il a méthodiquement défoncé tous les travers et les hypocrisies d'Hollywood en 8 minutes, étriant notamment les bien-pensants, toujours prêts à donner des leçons de morale en récupérant leur prix.
« If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything.
Alors, vous absolument pas en position de nous faire la morale sur quoi que ce soit. Vous ne connaissez rien du vrai monde.
Time in school than Greta Thunberg.
La plupart d'entre vous avaient passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg. Il leur a aussi rappelé... Ah ouais, non, mais il est exceptionnel. Je vous invite évidemment à la suite de cette chronique, c'est sa biographie, mais il faut juste aller voir cette séquence. Elle dure 8 minutes et c'est un bonheur de A à Z. Il a aussi rappelé avec malice qu'ils étaient les personnes dans la salle, celles et ceux qui ont fait la fête jadis avec Jeffrey Epstein et signé des films avec Harvey Weinstein. Il a vomi sur les films de super-héros et les remakes. Il a qualifié la Hollywood Foreign Press, qui est à l'origine des Golden Globes, d'institution très très raciste, en constatant le manque de diversité parmi les nommés. Bref, Ricky ouvre les placards de cette petite famille qui est le cinéma américain et les placards à Hollywood. Vous savez ce qu'on y trouve, Stéphane.
Des boules chinoises, des godemichés à seringues et à pistons,
oui,
des martinets à clous.
Oui, non, ça c'est dans votre maison de campagne, mais non, oui, c'est à peu près pareil. C'est à peu près la même chose à Hollywood, c'est vrai. Ricky balance les dossiers et pendant son monologue dialogue qui est aussi un réquisitoire. Le spectacle est également dans la salle où certains rient, d'autres au contraire s'étranglent, d'autres, pire encore, se sachant filmés, tentent de rire pour avoir l'air cool, mais s'étranglent pareil. Ricky Gervais jubile de ces moments car il adore être à la limite. Il maîtrise comme personne l'art de susciter la gêne par l'humour, un peu comme David quand il tente une blague sur Vichy.
En 40, hein. Pardon, je fais une blague sur Inès.
Oui. Parmi ses fils spirituels, il y a donc David Castello-Lopez, mais faut l'admettre. En France, en 2021, cette humeur-là n'a pas le vent en poupe, trop dérangeant, trop acide, peut-être trop anglais aussi. Et parfois ça nous manque, heureusement qu'il reste encore quelques francs-tireurs du rire. Des gars, nos limites, qui osent la blague que les autres humoristes ne songeraient même pas à faire. Parmi ces ultimes défenseurs d'un rire corrosif, le dernier des Mohicans du LOL, le Ricky Gervais du Perche. Stéphane Bern, qui, pour mémoire, à l'annonce du décès du célèbre restaurateur Bernard Loiseau, avait osé la blague suivante.
Fais comme l'oiseau.
Ricky Gervais serait fier de vous, Stéphane. Bravo.
C'est vrai que quand on compare nos Césars maintenant avec, avec ce qu'on entend, je peux vous dire que
ce qui est fou, c'est que les États-Unis sont encore beaucoup plus puritains que nous, oui. Et pourtant ils appellent Ricky Gervais pour faire les Golden Globes.
Exactement, c'est presque incompréhensible. C'est d'une violence. En plus, les gens sont là face à lui, Al Pacino. Tout le monde en prend pour son grade. C'est vraiment jubilatoire.
Bon, bah écoutez, merci. Vous m'avez fait découvrir Ricky Gervais. Merci, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Ces grands caustiques de l'histoire pour nous poser des questions plus triviales, certes, mais aussi plus utiles dans notre vie quotidienne. D'où vient ce mot? D'où vient cette recette? D'où vient cet objet?
Alors, commençons par la recette. Aujourd'hui, on va parler d'ossobuco, Olivier, c'est ça?
Oui, il est en train de mitonner tranquillement. Là, vous entendez les petits blobs dans la casserole. Il sera prêt d'ici quelques minutes, je vous le sers.
Très bien, le mot de la fin.
Oui, Mathieu, quand après 17 heures, pendant les pubs, vous dites du mal de Clémentine Portier-Kaltenbach, déjà, c'est pas gentil, parce qu'elle n'est pas là pour se défendre. Et ensuite, eh bien, on peut dire que vous taillez des croupiers. Pierre, une belle expression qui n'a pas vieilli. Oui, non, je sais. Je vais vous donner l'origine, mais avant 18h, évidemment.
Lui, il ne vieillit pas non plus, même s'il refuse à ce qu'on donne son âge à l'antenne. C'est David Castello-Lopez qui nous entraîne aux origines des kiosques à journaux. Mais vous allez voir, certains kiosques à journaux en particulier.
Oui, les kiosques à journaux. Je vais révéler ma date de naissance. Je suis né le 16 septembre 1981.
Ah oui.
Ah, voilà. Donc vous êtes plus vieux que moi.
Je suis plus vieux que vous. Tout à
c'est
fait.
Une très bonne chose. J'écoute votre chronique avec gourmandise.
On peut critiquer beaucoup de choses du monde contemporain, mais quand même, il y a des choses, c'est mieux aujourd'hui qu'avant. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous voulez voir du porno, par exemple, vous tapez ce que vous voulez sur Internet, genre gangbang respectueux ou boucaqué.
Vous ne trouvez rien.
Boucaqué non genré, vous voyez. Vous cliquez. Et vous n'avez plus qu'à kiffer. Mais tout le monde dans ce studio a encore connu l'époque où le porno était d'une grande rareté. Moi, quand j'étais adolescent, en gros, il y avait que Canal+, mais c'était dans la chambre de ma sœur. Donc, pour voir du porno, il fallait attendre un insupportable alignement des astres. Genre, il fallait que le premier samedi du mois corresponde à un jour où ma sœur, par hasard, ne dormait pas à la maison. Autant dire que ça n'arrivait presque jamais et j'étais triste. La seule autre méthode, c'était d'aller au kiosque à journaux. Et je me souviens comme ça d'être resté quart d'heure un jour devant un kiosque à journaux avec mon ami Pierre Arnaud. On n'arrivait pas à se décider parce qu'on avait trop honte. Et finalement, au bout de ce quart d'heure, le kiosquier nous a dit « Bon, c'est lequel que vous voulez ?» Et nous, on a dit « Penthouse ». Bon bah voilà, ça fera 30 francs, pas besoin de faire des chichis. Et donc à cause de ça, à cause de ces petites scénettes, j'ai gardé une tendresse pour les kiosques à journaux et en particulier pour ceux de mon enfance qu'on appelle les kiosques K80. Les K80, j'en ai amené des photos ici, hein. Ce sont des kiosques en plexiglas qui ressemblent un peu à des satellites vintage, vous voyez, un peu à Spoutnik ou à l'Atomium de Bruxelles, mais en petit, avec des boules de métal et des tiges entre ces boules. Titre. Voilà, je montre encore un peu pour les gens d'Europe 1 qui regardent la vidéo. Hein, voilà, je vous les montre parce que c'est quand même un peu important. Faut l'avoir bien en tête. Donc des K80, il y en a encore à Paris, dans pas mal d'endroits, mais quand même de moins en moins. Et j'en parlerai. Et moi, comme je suis chelou, je me suis demandé, mais d'où ils venaient ces kiosques? Bon, les premiers kiosques à journaux à Paris, ils datent du milieu du 19e siècle. C'est Haussmann qui les a mis en place. Il ressemblait aussi à des colonnes Maurice. Je dis aussi parce que vous vous souvenez des colonnes Rambuteau pour faire pipi dont je vous ai parlé l'autre jour, qui ressemblaient aussi à des colonnes Maurice. Tout ressemblait à des colonnes Maurice en fait ce moment-là. Ensuite, il y a eu les kiosques dits Marigny. Et à la fin des années 70, la mairie de Paris a lancé un appel d'offres pour remplacer les vieux kiosques de Paris. Et là, il y a un monsieur qui a postulé et qui s'appelait André Chouche. André Chouche. André, il est né en 1938 en Pologne, autant dire qu'il a eu un joli cadeau pour son premier anniversaire, sous la forme d'une invasion nazie. Et puis, il a fait ce qu'on fait pendant longtemps la plupart des Polonais, il a quitté la Pologne. Et puis, il s'est installé à Paris, il a étudié l'architecture, et au moment de l'appel d'offres, André, ce qu'il voulait, c'était s'inspirer des bouches de métro de Guimard, qui étaient très transparentes, vous voyez, avec du fer forgé. Bon, on peut pas dire que ça ressemble de ouf non plus, son modèle, mais en tout cas, c'est lui qui a remporté l'appel d'offres. Et le 6 novembre 1980, le premier kiosque K80 est installé place de l'Alma, à quelques pas de l'endroit où Lady Di est décédée. Comme quoi, hein? Non, comme quoi, rien, il n'y a aucun rapport entre les deux événements. C'est juste, faut le savoir. Alors malheureusement pour moi qui les aime beaucoup, les kiosques K80, ils ont commencé petit à petit à être remplacés par des kiosques un peu moches, en plastique vert, qui imitent les kiosques haussmanniens du 19e siècle. Et puis, en 2016, il y a une dame qui leur a donné le coup de grâce. Et cette dame, c'est... Anne Hidalgo. Et Anne, elle a décidé, je cite, que les K80, c'était des bulles en verre LED qui avaient mal vieilli. C'est dégueulasse quand même de dire ça. Et elle a décidé de tous les remplacer par des kiosques modernes. Bon, je suis allé en voir plusieurs, ils sont quand même pas mal. Il y a plus de place, on est à l'abri pour regarder les journaux. Moi, personnellement, je les aime quand même bien. Mais ce qui me rend triste, c'est de voir les K80 se faire démanteler un à un.
C'est horrible.
D'autant plus que, de façon assez ironique, au même moment, il y a plein de kiosquiers que j'ai interviewés qui renoncent à vendre des magazines porno. Pourquoi ? Eh bien, parce que plus personne ne les achète.
Mais
voilà.
Le
monde de notre enfance disparaît. Je vous livre une petite anecdote personnelle, peut-être qui vous choquera, mais je tiens à saluer ma mamie Fernande. C'est elle qui m'a acheté mon premier penthouse, puisqu'elle n'avait effectivement aucune limite et je n'osais pas l'acheter moi. Et je lui ai dit de me l'acheter. Elle a pris le magazine sans regarder la couverture. Et sur la couverture, il y avait écrit plaisir buccal, plaisir total. Et c'est merci mamie, c'est grâce à toi que j'ai mon premier.
Mais c'est fou ça, c'est fou. Ça c'est une grand-mère.
Mais après on s'étonne de la sexualité des gens.
Mais je vous en prie, merci, vous ne savez rien de celle-ci. Et maintenant on passe à l'osso buco.
Allez,
c'est très logique.
On passe à la casserole.
Oui, voyage en Italie, dans le nord de l'Italie, pour parler de ce plat très connu, très célèbre, qui est l'osso buco. Vous savez, la cuisine italienne, on la sépare en deux grandes entités. On va dire la cuisine du sud, qui est plutôt une cuisine de légumes et d'huile d'olive, et la cuisine du nord, qui finalement est une cuisine qui ressemble peut-être un peu plus à la nôtre, qui est plus une cuisine de viande et de beurre. Et là, pour ce qui est de l'osso buco, nous sommes dans le nord, puisque c'est un plat qui fait appel au veau, et le veau, c'est une des grandes spécialités, notamment de la cuisine piémontaise de Milan. Et ils ont d'ailleurs des élevages et une qualité de viande là absolument remarquable. Alors, la cuisine italienne est une cuisine qui a été codifiée très tard, c'est-à-dire vers le 19e et 20e siècle, et avant, en fait, les recettes se transmettaient de famille en famille, ou au sein des familles de mère en fille, et il n'y avait pas beaucoup d'écrits, ce qui fait que chaque recette a connu beaucoup de petites branches, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette écrite et définitive, mais plein d'interprétations. Et c'est un peu le cas de l'osso buco, où il y a non pas une, mais plein de recettes qui toutes ont un point commun. C'est d'abord le morceau de viande qu'on choisit, c'est-à-dire du jarret de veau qui est tranché en espèce de rondelles épaisses. Et donc vous avez à l'intérieur l'os avec la moelle évidemment, et puis tout autour vous avez la viande. Vous voyez bien à quoi ça ressemble.
Oui. Ah mais tout à fait, on visualise. Oui.
Voilà. Et puis il faut évidemment du bouillon, du vin blanc, quelques légumes et deux interprétations, l'une qui intègre un petit peu de concentré de tomate et l'autre qui ne l'intègre pas. Alors probablement la recette originale qui a plus de 200 ans ne l'intégrait pas, puisque les tomates n'étaient pas encore vraiment très connues et très utilisées en cuisine, en tout cas à cette époque dans le nord de l'Italie. Moi je trouve que c'est sympa d'en rajouter un petit peu, parce que ça ajoute un peu d'onctuosité, un petit peu de rondeur au plat. Donc dans la recette que je vais vous donner, on peut sans hésiter rajouter un tout petit peu de concentré de tomate. Alors, passons en cuisine si vous le voulez bien. Vous allez chez votre boucher, donc demander des fameux morceaux à osso buco, c'est du veau bien évidemment, et on va faire des petites incisions tous les 2 cm tout au long, de manière à éviter que la viande ne se rétracte trop au moment de la cuisson. Et puis on va prendre un oignon, de carottes, un petit peu de concentré de tomate, donc du bouillon de viande, du vin blanc, très important, un zeste de citron aussi, et un petit bouquet garni. Alors l'idée, c'est de faire colorer notre viande, comme on l'a appris déjà depuis le début de la saison, dans un petit peu de matière grasse. De la singer, avez-vous bien suivi depuis là aussi le temps que j'en parle de quoi il s'agit?
Bah bien sûr.
Mais oui, c'est mettre de la farine.
Voilà, bravo David. Donc vous la farinez légèrement, ce qui va permettre d'épaissir la sauce. Ensuite, on va rajouter l'oignon, les carottes, on va faire revenir tout ça. On va mouiller avec le vin blanc et avec le bouillon. On va rajouter donc notre petit zeste de citron, on va rajouter le bouquet garni, on va rajouter une petite gousse d'ail. Et on va laisser tranquillement cuire dans un four à 160 degrés, pas trop chaud, pendant 1h30, le temps que la viande devienne vraiment fondante et qu'elle se détache toute seule. Et on va faire réduire un petit peu la sauce avant de la servir. Traditionnellement, dans le nord de l'Italie, on sert l'ossobuco avec de la polenta ou avec un risotto au safran. Ça, c'est dans les règles de l'art. Bon, si vous voulez faire quelques pâtes, je vous en voudrais pas.
C'est un peu exagéré, non, quand même. En plus de l'ossobuco,
Non, c'est bien.
Parce que c'est deux choses très grasses. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais j'aime bien.
C'est surtout pour pouvoir profiter de la sauce, parce que si vous ne mettez pas quelque chose qui peut l'absorber, vous allez la boire à la cuillère, c'est un peu dommage. Donc l'intérêt de la polenta, des pâtes ou même du risotto, c'est qu'il va se gorger de cette bonne sauce. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, vous avez un bon ossobuco italien dans les règles de l'art. Je vous invite à passer en cuisine, c'est quand même vraiment pas très compliqué. Hein.
Eh bien, on vous attend pour nous le servir. Merci Olivier Pouls.
Oui, parce qu'on va pas servir nous-mêmes avec Stéphane. Ouais.
Hein. Non, depuis le temps qu'il mijote là, devant nous. Bon, merci beaucoup, la recette d'Olivier Pouls sur europe1.fr.
Stéphane Bern, une fois que vous aurez dégusté l'ossobuco, vous pourrez nous raconter le mot de la fin aujourd'hui, l'expression tailler des croupières.
Oui, je ne sais pas vous, mais moi j'utilise beaucoup cette expression que j'aime beaucoup. Elle est évidemment, elle fleure bon la France surannée, mais tout de même, elle est assez jolie.
Oui, souvent, on se croit un peu dans un film d'Audiard, tailler des croupières, c'est quand on cause des torts à quelqu'un.
Exactement. Moi qui vous fréquente depuis quelques après-midi, Mathieu, je peux dire sans rougir que vous en taillez souvent des croupières. Hein.
Non, moi, j'ai pas l'impression d'être particulièrement méchant, c'est ça que ça veut dire, non?
Tailler des croupières, c'est vraiment. J'essaie de trouver un synonyme. Réduire en 1000 pièces, réduire en pièces, par exemple. Ah. Mais ceux qui montent régulièrement à cheval, je ne sais pas si vous êtes de ceux-là, connaissent ce mot croupière. C'est la longe qui est reliée à la selle du cheval. Elle fait partie du harnais. Elle passe derrière la queue de l'animal tout en étant fixée au bas. Le bat, qui s'écrit avec un T et un accent circonflexe sur le A, est le dispositif qui permet de porter des charges pour un cheval ou un âne. Ça a d'ailleurs donné l'expression « âne batté ». Où c'est là que le bas blesse. Le bas, c'est pas le bas de contention, vous voyez. C'est le bas qui blesse, c'est le BAT.
Je me disais, un bas de contention, ça peut pas blesser. Enfin,
Oui, c'est vrai. On n'a jamais vu un bas de lingerie blesser quelqu'un. Ou alors, c'est qu'on a des mœurs vraiment étranges. Mais après tout, qui sommes-nous pour juger? Surtout après tout ce qu'on vient de se dire.
Oh, oui.
Revenons à tailler des croupières. Eh bien, au XVIIe siècle, pendant les combats, les cavaliers, eh bien, on faisait pas que des cadeaux, n'est-ce pas, pendant les guerres. Et puis un coup d'épée, un coup de lance, on essayait de faire chuter l'adversaire. Et même, on coupait la croupière. Et forcément, ça provoquait quoi? La chute du cavalier adverse. Cette technique de combat est devenue avec le temps le synonyme de causer du tort. On a dit tailler des croupières. Plus tard, quand le cheval a été remplacé par d'autres engins, on a inventé d'autres expressions. Par exemple, mettre des bâtons dans les roues. Si vous voulez, quand il n'y avait pas les voitures, ça servait à rien de mettre des bâtons dans les roues. Mais le principe est le même. Causer du tort de façon efficace. Allez, terminons par une phrase à méditer. Elle est de l'historien originaire du Havre, André Siegfried. Vous voulez nuire à quelqu'un? N'en dites pas de mal. Dites-en trop de bien.
Je vais méditer cette maxime, Stéphane. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Pas le moins caustique. Et pour cause, nous rendions hommage cet après-midi aux as de la pique de l'histoire. Ces malicieux qui ont passé leur vie à moquer les travers de leurs contemporains. Alors Stéphane, qui de Feydeau, Bussy Rabutin ou Ricky Gervais vous est le plus impressionné?
Vous savez, moi j'aime dans cette émission apprendre des choses. Eh bien, j'ai tout appris de Ricky Gervais. Parce que je connaissais un petit peu Feydeau et assez bien Bussy Rabutin pour l'avoir lu. Mais en revanche, je connaissais pas Ricky Gervais. Et je vais d'ailleurs m'abonner à son compte Instagram.
À son compte Twitter, à mon avis. C'est sur Twitter qu'il faut le suivre essentiellement. Je crois qu'effectivement, vous ne serez pas déçus. Demain, Stéphane, on va chanter.
Adieu, monsieur le professeur.
Vous chanterez si vous voulez, Mathieu. Moi, je me contenterai de raconter. Ils n'ont pas dit adieu, mais merci, monsieur le professeur. Demain, on réunit trois personnages qui ont eu un prof qui a changé leur destinée. L'astronome Nicolas Copernic, Georges Brassens, qui doit beaucoup à son professeur de français, qui deviendra même son parolier.
Et moi, je vous parlerai de Guillaume Musso, aujourd'hui auteur à succès, qui a été professeur et doit aussi beaucoup à son professeur. Vous verrez.
Ah, je vois que vous avez réfléchi. Alors, à demain, Mathieu. Oui, à demain, Mathieu. Salut les amis.
À demain, professeur.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.